Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, votre rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort ou C'est qui la plus forte, on s'amuse à opposer des personnages de fiction, de mythologie, des animaux, des actrices, des acteurs, voire des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. Pour le simple plaisir de l'exercice et pour découvrir des choses de manière ludique, nous allons aller au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question « C'est qui le plus fort ?». Aujourd'hui, on va mettre en scène l'affrontement de deux patrons de leur panthéon respectif, deux divinités qui ont chacun dirigé d'une main de fer leur carrière au sommet et ont eu des millions de fidèles. Je ne parle pas de Michel Sardou et Johnny Hallyday, mais bien de Zeus et Odin. Pour arbitrer ce combat, un expert est avec nous, Laïs Farah, qui s'occupe de l'excellente chaîne YouTube C'est pas sourcé et qui termine actuellement un master en histoire des religions. Bonjour Laïs, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Bah écoute, ça va, ça va. J'ai hâte d'assister à ce combat de titans. Vous connaissez peut-être le principe de l'émission. Nos deux concurrents du jour vont s'affronter au cours de 5 rounds et à chaque fois nous attribuerons le point à l'un ou à l'autre de nos deux dieux en l'occurrence. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de les faire monter sur le ring, Laïs, est-ce que tu voudrais nous présenter rapidement nos deux combattants ?
Oui, alors, comme tu l'as dit, les deux sont les chefs de leur panthéon respectif, donc Zeus pour le panthéon grec antique et Odin pour le panthéon, disons, scandinave de la religion germanique nordique. Même si on trouve Odin aussi chez les autres peuples germaniques, on le connaît beaucoup moins dans les traces qu'il a laissées là-bas. Disons, les deux, c'est vraiment des patriarches, des vieux hommes barbus qui sont les rois des dieux, ou en tout cas, ils dirigent la stratégie du groupe des dieux, ils ont un trône, ils rendent la justice, etc. Zeus est surtout connu pour être une espèce de dieu céleste, il a la foudre, et c'est une de ses armes qui est extrêmement efficace quand il combat des titans, des géants. Odin, c'est un dieu qui est beaucoup plus intellectuel, donc qui va beaucoup plus jouer sur la ruse, la stratégie militaire, le fait de rechercher le savoir. Il va aller en quête du savoir, interroger des gens, ressusciter, enfin revivifier des morts pour les interroger, ce genre de choses. Et donc un dieu qui est un peu plus le cerveau, alors que Zeus, c'est beaucoup plus l'ordre et puis l'imposition de la force sur le cosmos, quoi.
D'accord. Petite question. Y en a un qui est un petit peu plus jeune que l'autre, non ? Ou ils sont apparus en même temps ?
Alors, ça va être difficile à dire. D'ailleurs, ça va être une des questions qu'on D'accord. va pouvoir se poser. Hein. Est-ce que... combien de temps a duré leur carrière, si on veut ? On pourrait penser qu'a priori, Odin serait le plus jeune, mais c'est même pas complètement sûr. Et ça dépend ce qu'on entend par... à partir de quel moment est-ce qu'un dieu... on va dire commence à exister ou à partir de quel moment il change tellement qu'on peut plus considérer que c'est le même dieu. Quoi.
D'accord.
C'est aussi ça un autre problème.
Bon, alors on va pas spoiler ce dont on va parler plus tard et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier round.
Odin ! Odin ! Odin ! La voilà la bâtisse de Monsieur Odin. Mon Dieu, comme elle est petite. Monsieur Odin, ouvrez-moi, valeureux guerrier.
Willy, vous êtes viking. Et à ce titre, vous violez, vous pillez, vous écartelez des traîtres et vous tabassez les boucs avec une batte. Bravo, Willy.
Alors, première question. qui avait le plus grand nombre de dieux à gérer, en gros qui avait la plus grosse équipe qu'il devait prendre en charge, qui avait le plus de boulot en termes de management en fin de compte.
Ouais, alors avant de répondre à ça, je vais commencer par dire que je suis, heureusement disons, je suis pas complètement un expert, c'est-à-dire que disons, je lis le grec ancien et le vieux norrois avec un doigt, je suis pas du tout, je m'y connais un peu, mais je suis pas un expert complet de ces disciplines. D'accord. Parce que sinon il y a de grandes chances que j'arrive pas du tout à répondre à la question, parce que je dirais qu'elle a pas de sens.
D'accord.
Mais disons, puisque c'est ça la compétition, je dois aussi dire qu'il y a un gros biais dans les sources qu'on a sur ces deux panthéons qui sont très différentes. Le panthéon nordique, on le connaît surtout par L'Edda en prose de Snorri Sturluson, qui est une sorte de manuel de poésie, c'est-à-dire une tentative de transmettre cette tradition à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il a l'impression que voilà, les poètes, ils connaissent plus les poèmes d'antan. Donc on va essayer de faire un espèce de manuel pour leur raconter ces histoires et aussi comment est-ce qu'on fait ce genre de poésie. Et puis aussi l'Edda poétique, qui est une compilation qu'on trouve dans un manuscrit du XIIIe siècle, probablement qu'elle est... Il y a certaines parties qui doivent être beaucoup plus vieilles, mais en dehors de ça, on a très peu de choses. C'est ces deux textes principalement qui datent à peu près de la même époque, à un moment où la Scandinavie est chrétienne, et donc pas grand-chose. Du côté grec, par contre, on a l'Iliade et l'Odyssée, la Théogonie d'Hésiode, qui est une espèce de grand catalogue, même un annuaire des dieux, et on a aussi des gens comme Pausanias ou Diodore de Sicile qui vont vraiment être un peu des... qui vont faire des catalogues un peu de tout le monde grec, qui vont dire voilà les curiosités qu'il y a dans toutes ces îles, dans toutes ces régions, et qui vont parler de beaucoup de traditions locales, de temples, de rituels. Donc, on a des problèmes un peu opposés. Côté nordique, on a une tentative de systématiser une tradition qui est en train de disparaître. Donc, des fois, on a des informations qui ont l'air assez cohérentes, mais on ne les comprend pas vraiment parce qu'on n'a pas grand-chose pour les comparer. Et de l'autre côté, côté grec, au contraire, c'est plus un énorme foisonnement incohérent, où vous allez avoir trop de sources, de rationalisation, de folklore et des traditions qui se contredisent. Donc, si on part de là, bah oui, les Grecs, ils vont gagner parce qu'il y en a, on a beaucoup plus de traces de petits dieux, si on veut. C'est un peu le problème des systèmes polythéistes, c'est que généralement, les dieux importants, il y en a une douzaine, une quinzaine, une vingtaine. Mmh. Et puis après, si vous voulez tous les compter, il y en a des centaines, parce qu'il y a des dieux locaux, des dieux qui sont des personnifications de concepts. Mmh. Si vous lisez justement la Théogonie d'Hésiode, vous avez, je sais pas, les muses qui représentent les arts, les heures qui représentent des divisions du temps, mais pas forcément ça, peut-être le cycle des saisons. Est-ce qu'on rajoute les diamonds? Est-ce qu'on rajoute les héros? Vous avez des personnifications assez évidentes comme Thanatos, qui est un dieu de la mort, Eros, un dieu de l'amour. Donc, si on compte les dieux principaux, il y en a à peu près une douzaine côté grec. Mmh. C'est-à-dire un peu les Olympiens, quoi. Vous avez Zeus, Poséidon, Hadès, Hermès, Héra, Héphaïstos, Dionysos, Athéna, Artémis, Arès, Apollon, Aphrodite. Il y a probablement deux, trois autres qu'on peut rajouter comme Héros, justement. Mm. Mais après, si vous regardez les listes, vous pouvez trouver des listes de divinités grecques. Là-bas, vous en avez vraiment des centaines. Côté nordique, à part Odin, on a son fils Thor, qui est vraiment le dieu guerrier. Tyr, qui a aussi une dimension guerrière, mais plus un peu la justice, les serments, ce genre de choses. Frigg, la femme d'Odin. Loki, qui est un peu le fauteur de troubles. Freya, qui est la divinité un peu qui s'occupe, disons, de l'amour, des divinités un peu érotiques comme ça. Balder, un des fils d'Odin. Et puis Heimdall. Il y en a d'autres, mais disons, là, on arrive un petit peu au bout des dieux nordiques connus. Donc, on aurait un peu 8, peut-être une dizaine. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a des fils d'Odin comme Vali ou Vidar, des fils de Thor comme Magni et Modi. Mais généralement, on connaît une chose, une histoire sur eux. Et puis, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Puis, de la même manière, comme dans la mythologie grecque, il y a des dieux qui sont un peu... ils ont 7 fonctions dans ce contexte, puis c'est tout. Vous avez Bragis, un dieu de la poésie. Dans la Skaldskaparmál, il parle avec Aegir, qui est un géant qui personnifie la mer. Mmh. Donc le concept de mer, de l'océan. Donc les deux discutent, puis on a ce dialogue entre les deux, mais le fait qu'ils aient utilisé sur le plan littéraire ici, ça ne nous dit pas grand chose sur ça ne dit pas grand chose sur leur existence en dehors. On a, puis comme bien sûr on tient ces textes à une époque où les gens sont chrétiens, il y a beaucoup de dieux où on a des espèces de fragments comme, je sais pas, Uller, on sait qu'il est associé basiquement au ski, aux serments, aux anneaux. On a un peu une espèce de collection de trucs, mais on ne sait pas trop quoi dire sur ce dieu-là. Donc c'est un peu ça. Donc là, je dirais que c'est Zeus qui avait plus de dieux à gérer.
D'accord.
Parce qu'il avait aussi des daimons à gérer qui ont un peu... Il y a Vincennes, si vous êtes intéressé, il y a Vincennes Pirandelforge qui a un cours au Collège de France que vous pouvez regarder où elle parle de dieux, daimones, puis un peu de ces catégories différentes, donc les démons dans la daimones dans la mythologie grecque. Puis elle parle de quel rôle ils entretiennent justement avec... en tant que gens qui maintiennent l'ordre de l'univers ou qui vont distribuer les bienfaits et les méfaits sur l'ordre de Zeus. Puis là, ça ouvre une autre catégorie de questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer ces bonhommes-là comme des dieux, par exemple ?
Ah oui, d'accord.
Et puis, je dois dire, sur le plan, si on regarde sur le plan de la parité, on va dire, il y a pas mal de déesses côté grec, mais si on regarde côté nordique, Frigg et Freya, c'est un peu les seules déesses importantes. Hein. Y en a d'autres, mais vraiment, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup non plus.
D'accord. Bon, donc... on peut dire raisonnablement que Zeus avait quand même une plus grosse équipe à gérer, donc un plus gros boulot de patron.
Probablement.
Quoi.
Probablement.
Bon, alors on va accorder le point à Zeus sur ce premier round.
It is time for the mortals to pay. My child waits to do your will. Release the Kraken.
Deuxième round. Qui a remporté le plus de combats et de batailles, ou alors on peut aussi dire qui a peut-être réalisé le plus grand nombre d'exploits physiques, guerriers, que sais-je.
Je pense, disons, les deux ont un peu ils ont un statut en fait assez parallèle quand on regarde les deux, c'est-à-dire qu'ils sont le dieu qui va amener la nouvelle équipe des dieux, la nouvelle génération de dieux au pouvoir contre l'ancienne génération. Donc ça va être, puis généralement c'est contre des espèces de géants où l'ancienne génération est un peu plus monstrueuse ou pas assez civilisée par rapport à eux. Donc Zeus, ça va être, il y a une espèce de succession où il y a Uranos qui empêche les autres dieux de naître, puis il se fait castrer par Cronos, puis ensuite Cronos, il a une prophétie qui dit ben, tu vas te faire détrôner par ton fils, puis il a pas envie, donc il avale ses enfants, c'est cette histoire-là. Zeus, il y échappe parce que sa mère donne à Cronos une pierre à manger à la place. Puis une fois qu'il a pu grandir loin de ça, bah, il va renverser son père et les titans. Donc ça, c'est une grande guerre, la titanomachie, où Zeus va justement rassembler des forces, notamment des forces qui avaient été enfermées dans le Tartare par Cronos. Les hécatonchires, c'est des créatures qui ont 100 bras, leur nom veut dire 100 bras. Les cyclopes aussi. Et donc il va rassembler tout ce monde et puis il va réussir à battre Cronos et les titans et puis à les remplacer. Sauf que le truc, c'est que est-ce que c'est vraiment la force de Zeus qui entre en compte ici, parce que basiquement il utilise des éléments de l'ancienne génération pour gagner. C'est vraiment les hécatonchires qui vont être décisifs, puis aussi il y a les cyclopes qui vont lui fabriquer des armes. Ils vont fabriquer pour Poséidon un trident, pour Hadès son casque d'invisibilité, puis pour Zeus la foudre. Et donc il y a un peu un dernier barreau d'honneur où il y a la terre Gaïa, qui est pas contente généralement que justement tout le monde essaye un peu de la mettre de côté comme ça, donc elle envoie des espèces d'enfants monstrueux. Et le dernier d'entre eux, c'est Typhon ou Typhée, qui est une espèce de... Il a des centaines de têtes de dragons qui crachent du feu, qui aboient, qui hurlent, donc il est assez terrifiant comme ça. Et puis Zeus arrive à le détruire avec la foudre. Donc quand on lit le texte, ça a l'air assez rapide comme victoire, genre voilà, il libère toutes ses forces énormes et il arrive à les remplacer et à détruire par la foudre Typhon. Mais Hésiode nous dit quand même que le combat dure 10 années entières. Donc 10 ans pour des dieux qui ont toute cette... Ça a quand même un peu traîné en longueur. Il y a une autre... un cycle qui se confond d'ailleurs beaucoup avec celui-là, c'est celui de la gigantomachie, où justement il y a un peu une espèce de rebelote où c'est contre des géants que Zeus va se battre. C'est un peu la même chose, avec la foudre qui va jouer un rôle. Odin a un peu la même chose, où il y a la génération d'avant, c'est les Jotuns, qu'on traduit souvent par géant aussi, mais ou par, je crois que Boyer parle de turs du givre, on peut essayer de trouver des termes. C'est pas forcément des géants, mais ça parle un peu d'espèces de géants de glace généralement, mais ça s'applique aussi à d'autres monstres et d'autres créatures du genre. Donc c'est vraiment un peu comme les titans. Et ils vont essayer de les supplanter. Et puis on nous raconte qu'il y avait une espèce de géant énorme qui s'appelait Ymir, puis qui était le premier être vivant. Et qui était extrêmement cruel. Et puis Zeus et ses deux frères, Vili et Vé, vont mettre Ymir en pièces. Ils vont le charcuter, le découper, le sacrifier, en fait. Et avec les parties de son corps, ils vont créer le monde. Donc le crâne d'Ymir va devenir le ciel, je crois. Son cerveau va devenir les nuages. Son sang va devenir les rivières, etc., etc. Avec les différentes parties de son corps, ça crée le monde. Et puis on nous dit aussi que Ymir avait tellement de sang que ça va inonder le monde et puis tuer tous les géants. Tous les Jotuns, à part un qui s'appelle Bergelmir, qui lui va pouvoir repeupler le monde. Donc il y a vraiment une espèce de déluge de sang et puis juste un qui reste. Et c'est lui qui va, ça explique pourquoi dans les histoires de Odin on a encore des géants. Donc ils ont un truc un peu similaire, mais j'ai envie de dire que si on parle de victoire éclair, je trouve que la victoire de Zeus est un peu plus éclatante, alors que La victoire de Zeus, c'est un peu plus, il y a un peu plus de combat. Tandis que Odin, c'est un peu plus, bah voilà, il a inondé tous les géants, puis il a gagné. Donc je sais pas laquelle des deux est la plus significative, mais quand même, Odin, il crée le monde. Donc est-ce que c'est lui qui accomplit le plus de ce côté-là?
Ah. Est-ce que Odin coifferait Zeus au poteau d'une courte tête sur ce point-là?
Je dirais sur ce point-là, je pense, parce que sinon, la plupart des histoires d'Odin, comme je disais, c'est un dieu assez intellectuel, c'est-à-dire que bon, Zeus non plus, il va pas souvent se battre lui-même, c'est plus quand quelqu'un va un peu trop loin, bah voilà, il le foudroie, mais Odin, c'est plus l'histoire typique d'Odin, c'est qu'il est incognito, il se balade et il va discuter avec quelqu'un pour lui tirer son savoir, et il va l'interroger, et puis à la fin du dialogue, généralement, au bout d'un moment, la personne se rend compte « Ah mais en fait, c'est toi Odin ». Il y a plusieurs histoires comme ça où c'est plus ça qui va l'intéresser. Donc, mais sur le côté un peu combat primordial et grande bataille, bah, ils ont un peu le même pédigré, on va dire.
D'accord. Bon, alors on va aller, on les met à égalité sur ce point-là. Ça arrive parfois.
I am one eye. I am also called Highest and True Gefler. I am Grimnir and the Hooded One. I am Allfather, Gondlier, One Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My ravens are Yugin and Moon in thought and memory. My wolves are Feiki and Geiri. My horse is the gallows. I am Odin!
Alors, round suivant. Qui aurait, j'utilise le conditionnel parce que je sais que c'est une question extrêmement compliquée, qui aurait laissé la plus grande trace dans l'histoire, à la fois dans la culture classique, si une telle chose existe, et dans la pop culture, d'après toi?
Je pense que, encore une fois, de par la nature des sources qu'on a, je pense que c'est évidemment Zeus, parce que... Voilà, l'Iliade et l'Odyssée, c'était le classique. La culture classique a eu un impact tellement énorme sur en Occident et même au-delà, que c'est difficile de voir que Odin peut difficilement rivaliser. Comme j'ai dit, c'est vraiment quelques manuscrits qui vont être redécouverts un peu après, au 18e, 19e siècle. Puis avec le nationalisme allemand, ils vont prendre un peu plus d'importance parce que justement, les Allemands, les Scandinaves, etc., commencent à se dire « Ah, il faut qu'on ait... On a notre propre mythologie, on va pouvoir le valoriser. » Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a été mis par écrit, en fait. C'est que, justement, c'est au moment où, avec la conversion au christianisme de la Scandinavie, les Scandinaves importent énormément de culture du continent. Donc on va importer, je sais pas, des récits de chevalerie, des romans courtois, le christianisme, forcément la culture classique gréco-romaine. Et donc peut-être le fait qu'à ce moment-là, vous avez un Islandais qui se dit « je vais mettre par écrit ces anciens poèmes pour montrer que nous aussi on a une culture », c'est peut-être justement une réaction à toute cette importation culturelle, en fait, pour montrer « voilà, nous on a aussi quelque chose ». Donc,
d'accord.
J'ai envie de dire « ouais, c'est Zeus », parce que c'est même possible que justement l'importation de la culture classique grecque, ce soit ça qui ait déclenché le fait de vouloir préserver ça en Islande, en fait.
D'accord.
Ironiquement. Donc je dirais, par la force des choses, voilà. Pour la pop culture... ça c'est un peu plus je suis un peu plus partagé parce que justement récemment les deux sont un peu mis sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que généralement quand on parle de mythologie, on parle de mythologie grecque, on parle un peu de mythologie germanique aussi, c'est devenu un peu les deux grandes mythologies qu'on va apprendre ou connaître. Vous avez les comics Marvel bien sûr qui jouent un rôle, mais des jeux vidéo, des mangas, donc j'aurais de la peine à juger plus récemment. J'aurais l'impression que Zeus a quand même un petit peu plus d'influence, même si justement Zeus, c'est pas un personnage si intéressant dans une histoire parce qu'il représente vraiment, disons, l'ordre, le patriarche sur son trône qui administre le cosmos. Alors que j'ai l'impression qu'Odin, qui est ce voyageur mystérieux, a un peu plus un côté narratif, un petit peu plus fascinant et, disons, un peu plus poétique, artistique, a plus de valeur de ce côté-là. Et puis que quand Zeus intervient dans une œuvre, généralement, il n'est pas le centre de l'histoire. Ça va être, je sais pas, quand je pensais à des choses comme le choc des titans ou Percy Jackson ces dernières années, c'est un peu le personnage qui sert d'arrière-plan, quoi. Donc il est là, mais...
Oui, c'est sur ce point-là, effectivement, c'est peut-être le seul point où je peux apporter quelques petites infos. Ouais. C'est vrai que Zeus est souvent un peu en arrière-plan dans... chez DC Comics, on sait que c'est le père de Wonder Woman. Donc il est mentionné, il est en toile de fond. Odin a un rôle un peu plus important chez Marvel, puisqu'il apparaît même dans les films Marvel, donc ce qui veut dire qu'il fait partie des top personnages. Et donc Odin a un rôle vraiment actif, effectivement, dans l'univers Marvel, beaucoup plus que Zeus. Et l'univers Marvel pèse tellement énormément dans la pop culture actuelle. Que par la force des choses, sur ce petit point-là, il a peut-être un peu d'avance. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est intéressant de voir comme dans les comics, la mythologie germanique ou scandinave, du coup, je ne sais pas exactement comment il faut dire, mais a été pas mal développée. Je t'entendais parler de Ymir, des géants, enfin tout ça. On le voit plutôt bien dans les comics Marvel, alors c'est... complètement réinterprété, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même fait des efforts pour garder au moins les noms, les contextes.
Ouais, c'est assez... Bah, disons, je, sur le plan des comics, justement, Thor se prête beaucoup mieux à une adaptation en comics, et c'est logique, c'est ça qui s'est passé, hein. C'est vraiment Thor qui est devenu le personnage central, parce que les histoires de Thor, c'est vraiment le type avec son marteau qui va casser le crâne des géants.
Oui.
C'est vraiment un héros, disons, un muscleur, un héros guerrier qui joue sur la force physique, etc. Odin, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, on a même un dialogue où on a Thor qui arrive au bord d'une rivière, et puis il y a un Othonien, un type sur une barque, qui va se moquer de lui. Puis donc les deux, ils échangent des moqueries. Et puis, c'est sous-entendu assez fortement que le personnage en question, c'est Odin, qui se moque un peu de Thor. Et donc, si on prend ce poème-là, bah, on a même à l'époque, classique de ces poèmes nordiques, on a un affrontement entre les deux où on voit que justement bah, Thor c'est un peu les muscles et puis Odin c'est beaucoup plus le cerveau quoi.
Alors justement je profite un peu de notre petite digression et encore pas tant que ça pour te poser une question sur Loki. Dans l'univers Marvel, Loki est le fils d'un géant de glace qui a été ensuite adopté par Odin. Est-ce que tu sais si c'est la même chose dans la tradition ?
C'est probablement... Oui, c'est en tout cas Loki, oui, est le fils d'un géant. Il serait le fils du géant Farbauti. Et en fait, on l'appelle Loki Lofason. Pourquoi ? Parce qu'il est le fils de Lofé. Et la nature de Lofé, c'est sa mère, ce qui est déjà inhabituel dans les canons un peu nordiques, parce que normalement on donnerait le nom du père. Lofason, pourquoi ? Bah, sa mère est notamment listée dans une liste de dieux, donc probablement que sa mère fait partie des As, de la compagnie des dieux, c'est pas entièrement clair, hein, mais probablement qu'elle fait partie de la compagnie des dieux, tandis que son père est un géant. Et disons, c'est une espèce de tabou qu'il y a dans la mythologie nordique, en fait, c'est qu'il y a une espèce de, disons, dans les règles matrimoniales sur qui peut marier qui. Vous avez les As, donc ça c'est les dieux un peu centraux, Odin et compagnie. Vous avez les Vans, c'est aussi des dieux, mais ils sont centrés sur la fertilité, c'est Freyr, Njord et compagnie. Ils sont un petit peu de seconde classe, un peu différents. Et puis après, vous avez justement les autres, les géants, les Jotun et compagnie. Et disons, les dieux peuvent c'est un peu une hiérarchie. Donc les As peuvent se marier avec les hommes As peuvent se marier avec les femmes qui veulent. Les Vans, les Vanir peuvent se marier avec des femmes Vanir ou des femmes Jotun. Et puis les Jotun hommes, ils peuvent se marier qu'avec des femmes de chez eux. Donc le fait qu'un géant se marie avec une femme déesse, c'est une transgression en fait. Il y a une espèce d'idée de, si on veut, d'hypergamie où il y a ce fait que, ben, ouais, une espèce de ségrégation de la hiérarchie en fait. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et donc oui, la nature de Loki est problématique. Puis c'est un personnage qui est vraiment, ben, voilà, le fauteur de troubles, le facteur de désordre et compagnie. Qui est assez... Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, hein. c'est pas toujours très clair d'où vient cette nature. Puis aussi, ben, le problème, c'est que, étant donné qu'on tient nos sources à une époque où les gens sont chrétiens, parfois on se demande s'il n'y a pas aussi cette espèce de filtre chrétien qui influence notre vision, notamment de Loki. Par exemple, il y a la Locacena, qui est un des poèmes les plus célèbres sur Loki. C'est basiquement un repas, et puis Loki insulte tous les dieux tour à tour. Et puis il les insulte vraiment, genre oh, toi Odin t'es une vieille baderne, toi Freya tu couches avec n'importe qui, etc. Donc très insultant. Et puis Thor le menace et lui dit tais-toi sinon je vais te casser le crâne. Et puis on se demande un peu, enfin c'est très débattu, mais il y a une des questions qui se pose, c'est est-ce que ce serait pas un scribe chrétien qui se sert de Loki pour se moquer des dieux nordiques, pour dire ah bah regardez cette mythologie là, elle est un petit peu ridicule. Ou alors est-ce que c'est bah justement que c'est un moment où ces dieux existent, c'est une tradition poétique, etc., mais on les prend plus vraiment au sérieux, du coup on peut s'amuser un peu, puis avoir Loki qui montre à quel point ils sont un peu ridicules. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Mais sur son origine, ouais, il a une généalogie un peu qui pose problème, ouais.
D'accord, bon, bah, c'est intéressant. Bon, ce qui veut dire que du coup, sur cette partie qui a laissé la plus importante trace dans l'histoire, on va quand même donner le point à Zeus. Ce qui fait quand même une avance considérable pour Zeus, hein, mais bon. Mais Odin se bat bravement quand même. Question suivante, qui aurait eu le plus de fidèles?
Alors ouais, ça c'est une question qui est un peu difficile parce que bien sûr pour évaluer des périodes historiques et même parfois préhistoriques, combien de gens il y avait, c'est pas forcément évident. J'ai vu qu'il y avait le Mogens Herman Hansen qui est un je connaissais notamment son livre sur la cité, sur la démocratie à Athènes. Il a essayé de faire une espèce d'estimation de la population en Grèce. Il a estimé qu'en Grèce, dans la Grèce elle-même, disons ce qui correspond à la Grèce aujourd'hui, il y aurait eu entre 2 millions et 3 millions de personnes à l'époque d'Alexandre le Grand. Et puis, il faut compter que du 8e au 4e siècle avant notre ère, la plupart des gens sont d'accord, il y a eu une espèce d'énorme croissance de la population grecque. Je veux dire, ils ont commencé à avoir des colonies tout autour de la Méditerranée. Donc, je crois que lui, son estimation, il arrive autour de... dans toutes les cités grecques... autour de 10-12 millions de gens, mais bien sûr, il y aura aussi beaucoup de gens qui ne seront pas forcément des Grecs qui suivent, disons, le mode de pensée de la religion grecque, mais ce serait à peu près ça. Pour les religions des anciens germains, alors là, c'est aussi un peu difficile, disons, ça aurait été... quelque chose au début de notre ère, donc à l'époque romaine un peu, ça aurait pu être quelque chose comme 3 millions en Allemagne continentale, 600 000 personnes en Scandinavie, peut-être, disons, en Scandinavie, quand on regarde au fil du temps, peut-être 1 million grand maximum, donc on tenait plutôt sur un ordre de population de, je dirais, 5 millions. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, on est un peu en train de... C'est un peu beaucoup de doigts mouillés. Mais j'ai l'impression que la population de la Grèce, la population qui est concernée est un peu plus importante. Puis disons, le problème, c'est que les Grecs ont aussi une espèce d'atout dans cette question-là, c'est que le panthéon grec est très très analogue au panthéon romain. Donc si on commence à compter ce syncrétisme-là, oui, puis qu'on commence à compter l'Empire romain, où on va avoir des endroits où effectivement Jupiter et Zeus, c'est à peu près la même chose, on commence à avoir un avantage assez considérable pour les Grecs. Maintenant, combien de temps est-ce que ça a duré dans la longueur? Et puis là, la question se devient assez difficile. Les Grecs ont probablement, c'est-à-dire qu'on a un peu les textes classiques du 8e, 7e siècle sur la mythologie dont j'ai parlé un peu avant. Et avant ça, on a décodé justement l'inaire crétois, où on a aussi des mentions de certains dieux, ça c'est plutôt au 15e siècle avant notre ère. Et puis, le truc, c'est que Zeus, on peut probablement remonter encore plus loin parce que son nom est formé sur un radical indo-européen, qui est donc la famille de langues qui inclut le grec, les langues germaniques, les langues romanes. Les langues indiennes, les langues iraniennes et d'autres, on voit que Zeus, d'accord, est formé sur un radical qu'on retrouve en Inde, on a Dios Pita, en Italie ça deviendra Jupiter, et puis si on prend le datif ou le génitif, c'est Deus Pater, donc ça veut dire Deus, c'est un radical indo-européen qui voudrait probablement dire le ciel, ou le ciel clair, le jour, quelque chose de céleste, et puis Pater, c'est le père. Donc c'est probablement que c'était un dieu à l'époque proto-indo-européenne qui s'appelait le père céleste ou le père du ciel. Ça ne me dit pas grand-chose, ça me dit qu'il est céleste, puis que c'est une figure d'autorité masculine, ce qui cadre assez bien avec Zeus et d'autres. Mais donc, est-ce que ça veut dire que Zeus existait déjà? Pas vraiment, mais disons, il a cette espèce d'ancêtre qui garde la trace jusque dans son nom, ce qui montre quand même qu'il a une profonde ancienneté. Puis ça pourrait remonter jusqu'au, 4e, 5e millénaire avant notre ère, quoi. Du côté germanique, alors là, c'est un peu plus difficile. Comme j'ai dit, on a très peu de traces. Le truc, c'est que Odin est présent chez tous les peuples germaniques, en fait. Donc ça va être Wodan en Angleterre, Wotan en Allemagne continentale. On va même avoir les Lombards, donc c'est un de ces peuples germaniques qui a conquis, qui s'est installé en Italie. Ah, oui. Les Lombards, ils avaient un Godan. Donc c'est une déformation de Wodan. Donc avant même que probablement qu'il y avait déjà un Odin, on a une mention dans la Germanie de Tacite où il dit que les Germains vénèrent un Mars, un Hercule et un Mercure. Donc il utilise les dieux romains pour dire Mars, Hercule, Mercure. Mars, c'est probablement Tyr. Hercule, c'est probablement Thor. Et puis Mercure, probablement Odin. Parce que c'est un peu le même genre de dieu, un peu vagabond, voyageur, genre de type avec un bâton et un chapeau qui arpente les routes. Il y a peut-être un côté peut-être spirituel aussi de ce côté-là. Donc beaucoup de gens, quand ils lisent cette mention, ils disent ben, c'est la preuve que déjà au 1er siècle de notre ère, les Germains, ils ont Odin. Et puis aussi, Georges Dumézil a analysé que Odin héritait d'une espèce de schéma indo-européen lui aussi, où il y a un dieu qui va s'occuper, ou disons la souveraineté des indo-européens va être séparée en deux. C'est-à-dire que vous avez un dieu qui va être plus un dieu magique, terrible, terrifiant. Ça, c'est vraiment Odin, voilà, il utilise sa magie pour terrifier, contrôler les gens, etc. Et puis de l'autre côté, un versant plus juridique. Puis donc là, dans la mythologie germanique, ce serait Tyr, qui est un dieu beaucoup plus proche des serments. Puis on a un peu plus la même chose chez les Romains avec... il fait la séparation entre Romulus et puis Numa Pompilius. Puis la même chose en Inde avec Mitra et Varuna. Donc maintenant, le fait qu'il ait hérité de ce schéma, ça ne veut pas dire qu'il est aussi vieux que ça. Il peut aussi être arrivé tardivement, puis on lui a appliqué ce schéma. Puis il y a des gens qui pensent que Odin n'est pas un dieu qui soit aussi vieux que ça et qui soit arrivé plutôt tardivement dans la mythologie germanique. Maintenant, c'est très difficile à voir. Donc... De ce côté-là, si on regarde sur la durée,
bah,
les Grecs, ça pourrait être facilement, jusqu'à la conversion au christianisme, ça pourrait être facilement quelque chose comme 3000 ans. Puis les Germains, dans ce qu'on a de, comme attesté, Odin, il pourrait avoir eu une carrière de 1000-1500 ans. Mais c'est difficile d'étendre au-delà de ça sans entrer dans la pure spéculation. Donc je donnerais quand même le point aux Grecs pour ce coup.
Ok. En préparant l'émission, on parlait du revival en fait que peuvent avoir chacun en ce moment. C'est quoi? C'est le néopaganisme, c'est ça le bon terme?
Oui, c'est vrai qu'ils ont encore des fidèles aujourd'hui. Ils peuvent encore avoir des gens qui se revendiquent d'eux aujourd'hui. Et c'est vrai que si on regarde les gens qui actuellement se revendiquent de Odin ou de Zeus, ben je pense qu'Odin l'emporte haut la main. Parce que voilà, les religions germaniques... Alors, c'est pas une histoire qui est toujours non plus anodine, disons. C'est vraiment, avec le nationalisme allemand et le besoin de se retrouver une tradition, ben ces textes scandinaves sont devenus très importants. Puis il y a même des gens à l'époque qui se sont dit ben on va carrément recréer une religion germanique, et puis qui sont devenus justement des néopagans. Ce qui a été un peu sinistre, parce que c'était justement associé aux franges, souvent les plus violentes, les plus antisémites, les plus belliqueuses du nationalisme allemand. Puis on a par exemple Jacob Wilhelm Auer qui a lancé un mouvement, puis qui a eu un petit peu de succès sous le Troisième Reich, mais bon, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça un peu ridicule aussi, et puis qui n'étaient pas alignés avec, donc ça a été un peu aussi mis sur le côté. Puis après, aujourd'hui dans les néopagans, vous avez la Wicca qui est très importante, vous avez une espèce de mélange entre celtes et germains, et puis c'est quelque chose que dans des milieux comme, je sais pas, le metal, le folk metal et compagnie, vous avez beaucoup de gens qui adorent ce genre de choses et qui vont se revendiquer de ça. Puis là, de ce côté-là, il y a aussi, justement, j'ai dit, il y a des espèces de nazis, mais il y a aussi beaucoup de gens très, très anodins qui se revendiquent de ça. Puis vous avez aussi des gens qui essayent de se dire, de recréer un peu la religion grecque. Mais j'ai l'impression que de ce côté-là, par contre, c'est vraiment des nationalistes grecs bizarres, et puis ça intéresse pas beaucoup de gens au-delà, en fait.
D'accord.
Il n'y a pas eu le même côté un peu pop culture, où il n'y a pas ce même côté où « Ah, j'aime le métal, donc j'ai un marteau de Thor accroché autour du cou. » Pour le revival grec, disons, c'est vraiment confiné à quelque chose d'un peu plus confidentiel. En
fait. D'accord. Bon. Bah ça fait quand même 3 points pour Zeus, donc on sait déjà que Zeus a gagné le combat, mais On va quand même aller au bout de l'affrontement et puis on va se poser une dernière question pour le sport et pour l'honneur. Et là, c'est vraiment la question la plus, j'ai envie de dire, la plus régressive de la journée, de l'émission. C'est bah, qui l'emporterait dans un combat direct s'ils étaient face à face et qui devaient se foutre sur la gueule pour une raison inconnue mais qu'on pourrait tout à fait trouver, qui gagnerait ?
Alors je dirais que pour le coup ça va permettre à Odin de sauver l'honneur parce qu'à mon avis Odin a une bonne chance contre Zeus. Comme je l'ai dit, Zeus c'est vraiment le truc c'est ça, c'est que Zeus c'est vraiment l'ordre, le roi sur son trône qui garantit l'ordre du monde, etc. Donc forcément il perd pas. D'ailleurs même j'avais dit avant son père et son grand-père s'étaient fait détrôner par leurs enfants et c'est quelque chose qu'on va lui faire la prophétie de la même chose. On va lui dire ouais tu vas te faire détrôner par tu as la nymphe Métis qui représente en fait la prudence, son nom veut dire la prudence, et on lui dit l'enfant que tu vas avoir avec elle sera tellement puissant qu'il va te détrôner. Puis alors Zeus il veut pas ça, donc il mange, il dévore, il avale Métis en fait. Et en faisant ça, il empêche que la prophétie s'accomplisse. Et aussi on nous dit maintenant elle vit basiquement dans son estomac, puis du coup il a le pouvoir de la prudence, il l'a incorporé. Et puis après un jour il a mal à la tête et puis on lui casse la tête et puis il y a Athéna qui sort de sa tête. Donc elle a quand même mené sa grossesse à terme mais d'une manière différente. Et donc Zeus, c'est vraiment celui qui va avoir même cette victoire contre le destin, où il va être vraiment le souverain pour toujours et tout le temps. Donc forcément, il a tendance à gagner. Mais une de ses faiblesses, c'est justement qu'il n'est pas forcément très... on peut l'avoir par la ruse, en fait. C'est ce qui se passe notamment quand Prométhée essaye de... Il y a l'histoire qui raconte l'instauration du sacrifice, où il va dépiauter un animal, et puis d'un côté il va mettre toute la viande dans la carcasse, puis ça va être un truc un peu moche avec des bouts de peau par-dessus, un peu dégoûtant comme ça, puis de l'autre côté il va prendre la graisse et les os, puis il va couvrir les os avec de la graisse, puis faire un truc tout beau, tout lisse, tout blanc. Et il va demander à Zeus laquelle des deux parties tu préfères, et puis Zeus va choisir la graisse et les os, parce que ça a l'air plus joli, et puis il s'est fait avoir. Puis du coup, c'est l'explication pourquoi est-ce que quand les hommes sacrifient, ils mangent la viande, et puis ils donnent la graisse et les os qui leur servent pas à grand-chose aux dieux.
D'accord.
Puis donc on regarde l'histoire, c'est un peu, on prend ça un peu littéralement quand je dis Zeus s'est fait arnaquer, parce que bien sûr, le but de l'histoire, c'est justifier pourquoi est-ce que dans le sacrifice, les hommes vont continuer à manger la viande, parce que il faut bien qu'on mange. Mais... Du coup, on a cette histoire pour justifier ça. Mais du coup, Zeus quand même fait un petit peu arnaque. Et puis plus tard, Prométhée va voler le feu, puis du coup, il va le punir éternellement, etc. Mais du coup, c'est le genre de choses pour lesquelles Odin est vraiment très bon, en fait. Pour lesquelles Odin est vraiment très bon pour arnaquer, justement, aller vers des géants ou des personnages qui sont extrêmement puissants et puis réussir à leur passer sous le nez. Il y a une histoire où, justement, comme Prométhée a volé le feu, il y a une histoire où Odin va aller voler l'hydromel poétique, un hydromel qui est la source de l'inspiration poétique. Puis donc, par exemple, il veut s'introduire chez le géant qu'il garde. Puis le premier truc qu'il va faire, c'est il voit des gens qui fauchent le blé dans les champs. Et il arrive avec une pierre à aiguiser qui aiguise très bien. Et il leur dit, regardez, je peux aiguiser vos lames tellement bien. Puis elles deviennent super aiguisées. Puis ils veulent tous avoir sa pierre. Et il est entouré par ses 9 esclaves qui sont en train de faucher le blé. Alors il lance sa pierre dans les airs. Et puis les esclaves, ils s'entretuent avec leur faux, en fait. Parce qu'en essayant tous d'attraper la pierre, ils s'entretuent. Puis ensuite, progressivement, il va réussir à s'infiltrer près du géant. Puis réussir à voler l'hydromel, etc. Mais donc Odin, c'est vraiment ce dieu qui utilise vraiment les subterfuges, la magie, etc. Donc pour moi... Dans un combat direct contre Odin, il peut gagner.
D'accord. Bon, on va donner le point à Odin, alors, quand même. Il aura droit à ce point-là. C'est intéressant.
Mais je dirais que c'est assez dans le thème, le fait que Odin perde, parce que justement, j'ai dit Zeus, c'est le souverain qui a gagné, puis qui est là pour toujours. En fait, c'est un souverain éternel sur l'ordre du monde, etc. Odin, c'est pas du tout ça. Odin, c'est un dieu qui est... Il y a le Ragnarök, donc le destin des puissances, qui fait que... Odin sait, justement, dans sa quête de savoir, il cherche justement à se renseigner sur cette fin des dieux, et il sait qu'il va se faire dévorer par Fenrir, ce loup géant, et qu'il peut rien faire contre ça. Donc c'est un dieu qui part déjà perdant, en fait, et il sait déjà que le monde va être détruit, et lui avec, et qu'il peut pas faire grand-chose pour l'en empêcher. Donc c'est... D'une certaine manière, ça colle assez bien avec les mythologies de base, que ce soit Zeus qui gagne de façon assez écrasante, puis que ce soit Odin qui soit... Que Odin soit vaincu, finalement.
C'est intéressant parce que quand j'ai pensé à ce thème, pour révéler les coulisses de l'émission, au début, j'avais plutôt pensé à Zeus contre Thor à cause de la foudre. Et puis après, je me suis dit, tiens, peut-être vaut mieux faire un combat de patriarche, en fait. Et je me rends compte que j'ai été complètement influencé par la vision pop culture de Marvel de Odin, qui correspond, pour le coup, que je trouve assez éloigné, qui serait presque plus un mélange de Odin et de Zeus, en fin de compte, dans l'univers Marvel, en tout cas.
Je pense qu'on a tendance, justement, il y a eu une espèce de zeusification d'Odin, effectivement, où il devient aussi cette espèce de souverain sur son trône, un peu choc des titans dans son palais tout brillant. Mais même dans les films Marvel, finalement, Odin lui aussi va mourir, mais il y a certainement quelque chose à dire. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, Thor, ce serait un personnage qui est beaucoup plus, justement, qui serait dans une catégorie très différente de Zeus. Ça peut aussi être intéressant, justement.
On va voir, peut-être qu'on trouvera Bon, maintenant qu'on a déjà fait Zeus, on va peut-être pas le remettre sur le ring tout de suite, mais peut-être qu'on trouvera un autre dieu grec à mettre en face de Thor. Il faudra y réfléchir. Bah, Laïs, merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses au cours de cette émission. J'espère que les auditrices et les auditeurs aussi ont pu apprendre. Bah,
merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que mes réponses ont fait sens et que j'ai réussi à me plier au jeu de manière un peu satisfaisante. Et puis,
oui, on a.
Pas juste déblatérer vaguement rapidement.
Non, on a joué le jeu et en même temps, on a appris des choses. Et moi, c'est exactement ce que je veux faire avec cette émission. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Bah alors vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle C'est pas sourcé, qui justement essaye de parler d'histoire des religions de manière un peu historique, un peu critique. J'ai essayé de voir un peu une idée reçue qu'on a ou une espèce de théorie, est-ce qu'elle tient vraiment debout. Dans un autre registre sur Radio Kawa, j'ai aussi un podcast moi-même où on parle de légendes arthuriennes. Donc chaque mois on essaye de voir une version classique, une histoire classique de Chevalier de la Table Ronde. Donc si vous voulez savoir qui est le plus fort entre Perceval, Galad et Lancelot, bah, vous pouvez écouter notre émission, justement. Puis sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Mon username, c'est Lymphesser, c'est LYMFHSR. Et voilà.
De toute façon, on mettra toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Alors, C'est qui le plus fort est une émission produite par Micro Stockholm. Vous pouvez aller voter pour, selon vous, qui est le plus fort sur c'estquileplusfort.com. Vous avez le droit à faire un match retour si vous voulez que Odin prenne sa revanche et soit le gagnant dans le cœur du public. C'est tout à fait possible. Eh bien, Laïs, merci beaucoup et puis à très bientôt.
Oui, à bientôt.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.